Bonsoir à tous. C'est parti pour un dimanche de campagne, l'émission qui fait le point sur la semaine écoulée et les déclarations politiques du week-end. Les dernières en date concernent la situation internationale avec la crise en Ukraine qui domine l'actualité. Emmanuel Macron multiplie les coups de fil, Jean-Luc Mélenchon les critique.
S'il travaille à la désescalade, c'est une bonne chose. L'inconvénient qu'il a, cet homme, c'est qu'il n'est pas crédible.
Emmanuel Macron, tout à ses dossiers, qui n'a pas encore dit un mot de sa candidature. Sinon, cette semaine, la droite a bu le bouillon après le meeting raté de Valérie Pécresse au Zénith. L'extrême droite, elle, s'est entre-dévorée à coups d'accusations d'espionnage. Pour ce qui est de la gauche, plus divisée que jamais, Ségolène Royal a mis les pieds dans le plat.
Quel sera le vote utile à gauche? C'est le vote Mélenchon.
On reviendra sur tous ces aspects de la campagne dans la semaine politique de Cyril Lacarrière. On s'arrêtera aussi sur la question des parrainages, car à 12 jours de la date fatidique, certains ne savent toujours pas s'ils pourront être candidats. Au programme également Au Like Citoyen, avec Jean Massier, streamer politique sur Twitch. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Ce soir, vous vous intéressez à une page Wikipédia.
Celle d'Éric Zemmour, qui est au cœur d'une polémique.
À tout à l'heure, les bobineaux de Thomas Legrand. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Claire.
Quand Valéry Giscard d'Estaing renouvelait la droite.
J'entends proposer à la France un nouveau style politique, direct. Moderne.
C'était donc en 1974, hein, on entendra ça tout à l'heure. Avec nous jusqu'à 19h, un confrère et une consoeur de la presse écrite. Astrid de Villene, bonsoir.
Bonsoir.
Chef du service politique du HuffPost. Ludovic Vigogne, bonsoir.
Bonsoir Claire.
Journaliste politique à l'Opinion, où vous suivez
les LR et la droite de la Macronie, je sais, ça fait rire.
Non, c'est ce que vous avez dit, la droite, c'est ça, voilà. Un grand merci au rédacteur en chef de cette émission, Cyril Lacarrière, à Stéphanie Texier, notre réalisatrice, et à Alexandre Chenet, qui est à la technique.
Un dimanche de campagne. Claire Servageant sur France Inter.
Nous voilà donc à 7 semaines du premier tour de la présidentielle qui, rappelons-le, aura lieu le 10 avril. Ce week-end, pas de grand meeting au programme, mais des appels lancés par ceux qui n'ont toujours pas leur parrainage. Parmi eux, Marine Le Pen qui s'est adressée aux maires et qui a salué l'initiative de François Bayrou pour une banque des parrainages. On y reviendra. Marine Le Pen qui a également lancé un autre appel en direction des électeurs qui seraient tentés par le vote Zemmour. C'était à la mi-journée sur France Inter.
Mais moi, je pense qu'Éric Zemmour ne sera pas au second tour. Parce qu'il est celui qui a le moins de chances de gagner face à Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui donné dans l'intégralité des sondages de second tour 10 points derrière moi face à Emmanuel Macron. Donc je viens dire aux Français, réfléchissez bien à qui vous allez voter au premier tour. Parce que ce premier tour va déterminer évidemment le deuxième et la capacité précisément à battre Emmanuel Macron.
Marine Le Pen qui a enregistré une nouvelle défection dans les rangs du RN ces derniers jours, celle de l'eurodéputé Nicolas Bay, accusé d'avoir livré des renseignements à l'équipe Zemmour. Nicolas Bay qui a décidé de porter plainte contre le RN et de s'en amuser sur le thème agent double.
Mes chers amis, je dois vous faire une petite confidence. Je ne suis pas un agent double de Sa Majesté. Je suis comme vous, un homme simple au service de la France.
C'était hier au pied du Mont-Saint-Michel où Éric Zemmour tenait meeting dans la boue et dans le vent devant un millier de partisans galvanisés sur le thème de la grandeur de la France et des valeurs chrétiennes.
La France fière de son armée, la défense de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous aimons, la victoire, la reconquête, vive l'indépendance, vive la puissance, vive la souveraineté, vive la République et surtout, vive la France!
Voilà pour ce meeting au pied du Mont-Saint-Michel avec le Mont-Saint-Michel en fond hier. Thomas Legrand, vous avez vu cette image? Qu'est-ce qu'elle voulait dire?
C'est l'image. L'image qu'il faut donner toujours quand on est candidat à la présidence de la République de droite, la puissance. Nicolas Sarkozy avait fait de très belles images d'ailleurs au Mont-Saint-Michel aussi avant d'être élu. Et là, j'ai remarqué, c'est un tout petit détail peut-être, mais et surtout, c'est-à-dire qu'il appuie sur le et surtout,
encore
vive la France.
Encore plus que la première fois.
Et c'est pas rien, c'est vraiment du langage codé sur la République et la France, la différence entre les deux visions de la France, une France républicaine dont l'identité est républicaine et une France dont l'identité, il en a parlé d'ailleurs, c'est plutôt la France éternelle, des clochers, des cathédrales. Voilà, donc il y a vraiment dans cette dans cette élection. Et si Éric Zemmour continue à progresser comme ça, une question presque identitaire au sens quelle France on veut.
Alors, il y a eu un chassé-croisé dans certains sondages cette semaine avec Valérie Pécresse. On a vu que Éric Zemmour a concentré ses attaques contre Emmanuel Macron, comme s'il était déjà au second tour, Ludovic Vigogne.
Oui, vous le disiez, qu'il y avait eu un chassé-croisé entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, mais il y a aussi, selon certaines enquêtes de fin de semaine, un chassé-croisé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen
aussi.
Et peut-être que le second tour, l'éventualité d'un second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, est-ce qu'il va s'installer dans les prochaines semaines? Et donc, Éric Zemmour commence à installer cette campagne et montrer qu'il est celui qui aura peut-être le plus de chances d'affronter Emmanuel Macron, contrairement à ce que Marine Le Pen veut faire croire. Il est indéniable que Éric Zemmour est celui qui, depuis début janvier, a la plus forte dynamique. On le constate dans tous les sondages. C'est très intéressant de voir qu'il y a des électorats dans lesquels il a progressé de manière extrêmement spectaculaire, comme par exemple les retraités. Les retraités, c'est un électorat qui est toujours resté très réfractaire à Marine Le Pen. Lui, désormais, fait des très bons scores, légèrement en dessous de ceux d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse chez les retraités. Et c'est un électorat clé de la droite.
Qui vote beaucoup,
c'est un électorat clé de la droite. C'était l'assurance-vie des Républicains jusqu'à présent. Donc si ça continue comme ça, peut-être oui que l'hypothèse d'un second tour Macron-Zemmour va de plus en plus s'installer.
Cela dit, Astrid de Villene, on est toujours dans la marge d'erreur pour ce qui est des trois là qui sont... On passe de se qualifier au second tour.
Absolument.
Pour l'instant, d'après les intentions
pour de l'instant, ils sont vraiment tous les trois dans un mouchoir de poche, en fait. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Et donc, on voit bien que le match se joue aussi là pour la qualification à ce stade, hein, puisque Emmanuel Macron n'est pas encore déclaré, donc peut-être qu'il baissera un petit peu. Mais à ce stade, c'est vraiment une course contre la montre et contre surtout de ralliement. On voit bien qu'Éric Zemmour prend, bon, pas beaucoup, mais il a quand même pris Guillaume Pelletier, qui est un ancien numéro 2 de LR. Il prend de plus en plus au RN et il veut s'imposer comme ça avec l'Union des droites. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant à gauche, on essaye de miser sur cette division de la droite et de l'extrême droite pour se dire peut-être que nous, vu que le ticket d'accès va être très bas, peut-être à 15-16, peut-être que finalement on a une chance.
En tout cas, on a entendu qu'effectivement Marine Le Pen, elle s'en inquiète puisqu'elle lance aujourd'hui un appel à ceux qui seraient tentés par Éric Zemmour. Du côté d'Éric Zemmour, en tout cas, lui fait feu de tout bois, lui et son équipe. Rebonsoir Jean Massier.
Bonsoir.
Donc ce soir, vous vous intéressez à la fiche Wikipédia d'Éric Zemmour qui est au cœur d'une polémique.
Et oui, absolument. C'est le sujet d'un livre Au cœur du Z qui est sorti jeudi. Le journaliste Vincent Bresson raconte comment une cellule d'une dizaine de militants baptisée Wikizedia a travaillé durant des mois pour zemmourifier, je cite, Wikipédia, c'est-à-dire modifier la page Wikipédia du candidat pour embellir son portrait. Par exemple, les militants ont tenté de supprimer, ou au mieux de tempérer, le qualificatif d'extrême droite pour parler d'Éric Zemmour. Ou encore, des modifications plus subtiles pour prouver que Zemmour a raison de questionner la responsabilité de Philippe Pétain dans la Shoah. Bref, vous l'aurez compris, on est loin du travail encyclopédique. On se rapproche franchement de la promotion, voire de l'hagiographie d'une personnalité politique.
Mais c'est si important que ça, une page Wikipédia pour un candidat ?
Mais figurez-vous que oui. Wikipédia, en 20 ans d'existence, c'est devenu un mastodonte d'Internet. C'est le cinquième site le plus fréquenté au monde. On parle de près de 150 millions de visiteurs par jour, en moyenne. Mais surtout, Wikipédia, c'est une encyclopédie en ligne qui a gagné ses gages de sérieux. Son organisation horizontale, son principe de neutralité et ses articles sourcés donnent confiance. Wikipédia est donc devenue une étape quotidienne pour de très nombreux internautes. Les politiques et leurs équipes le savent. Une page Wikipédia bien fournie, c'est un must dans une campagne électorale.
Mais Éric Zemmour est le seul à faire ça ?
Non. L'entrisme politique sur la plateforme est en train de se propager. Par exemple, en janvier, le site Arrêt sur Image expliquait que la page consacrée à Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, avait été en partie rédigée par l'un de ses collaborateurs. Mais la différence ici, c'est l'intensité. Les militants d'Éric Zemmour sont connus pour être très organisés. Sous la houlette de Samuel Lafont, le directeur de la stratégie numérique du candidat, ils reprennent des techniques d'agit-prop numérique assez classiques. Par exemple, faire monter des tendances sur Twitter ou le partage massif et coordonné de visuels de campagne sur les réseaux. Ils utilisent aussi des faux comptes, hein, ce qui est une pratique normalement interdite. Avec cette affaire Wikipédia, les Zemmouriens foncent tout droit dans la manipulation pure et simple de l'information à des fins politiques. On retrouve exactement les mêmes pratiques que l'alt-right américaine qui dépasse la seule campagne de communication favorable à son candidat.
Et j'imagine que Wikipédia a peu apprécié ces agissements ?
Ah, ça c'est peu de le dire. Les administrateurs de l'encyclopédie savent combien le sujet est sensible, non seulement politiquement, mais même pour la crédibilité de l'ensemble de la plateforme Wikipédia. Je rappelle que Wikipédia, c'est une encyclopédie collaborative, c'est-à-dire que tout le monde, vous, moi, peut apporter sa pierre hier à l'édifice et participer à l'écriture des articles. Mais il y a des règles, et des règles strictes à respecter. La neutralité du point de vue, le fait de sourcer ses ajouts, etc. Et croyez-moi, les administrateurs du site veillent au grain. Le site, d'ailleurs, a donc pris des mesures. Après un vote de ses bénévoles, Wikipédia a banni 7 militants d'extrême droite qui ont pris part à cette manipulation de la page d'Éric Zemmour. Par ailleurs, désormais, lorsque vous allez sur la page Wikipédia d'Éric Zemmour, vous avez en tête d'article un gros bandeau rouge qui vous avertit que cette page n'est pas très objective.
Merci beaucoup Jean Massier. Vous faisiez référence aux États-Unis. On nous a dit cette semaine, enfin c'est Guillaume Pelletier je crois qui a dit ça, qu'Éric Zemmour avait parlé avec Donald Trump. Alors, difficile à vérifier, Astrid de Villene, on en sait un peu plus ou pas du tout? Ou Ludovic Vigogne, je ne sais pas lequel veut...
On sait que c'est vrai, puisque des personnes, plusieurs, même l'équipe de Trump a confirmé cet échange.
Ça a été confirmé.
Donc c'est vrai. Après, j'imagine que l'un, Éric Zemmour, veut faire croire que Donald Trump lui a donné beaucoup de conseils pour sa campagne. Sans doute que Donald Trump est assez loin de tout ça. Mais c'est vrai. La question, c'est est-ce que rendre public un échange avec un personnage qui a une image si sulfureuse, y compris en France, y compris dans des électorats qui pouvaient l'apprécier quand il a été élu il y a quelques années, ça peut lui valoir une gratification ou bien ça peut lui valoir des critiques. C'est ce qu'on verra. Pour l'instant, ça n'a pas semblé tellement lui porter préjudice.
Astrid de Villene.
Oui, et puis moi j'ai trouvé étonnant qu'il ne le mette pas forcément plus en avant que ça, parce qu'il a un peu pris des pincettes enfin il l'a évidemment annoncé, donc c'est une stratégie de sa part, mais il a dit oui, il ne m'a pas apporté son soutien, c'était plus une façon pour lui à mon avis de crédibiliser aussi sa candidature au niveau international, et puis en fait il a jamais caché le fait qu'il soutenait Donald Trump, qu'il s'inscrivait aussi dans ces pas-là, donc c'est assez attendu je trouve.
Non seulement, il ne le cache pas et même il dit publiquement qu'il a des gros doutes sur l'honnêteté de l'élection de Joe Biden et qu'il reprend lui-même toutes les fake news qui tentent de faire croire, et ça marche aux États-Unis puisqu'on sait que une majorité d'électeurs républicains y croient, faire croire que l'élection était truquée.
On se souvient en 2017 de Marine Le Pen qui était allée à New York dans la Trump Tower tenter de rencontrer le candidat. Ça avait été un fiasco, elle était au rez-de-chaussée sur une petite table accueillie par un de ses conseillers qui lui dit oui, qu'est-ce que vous faites là? Enfin voilà, c'était un peu ridicule.
Encore une fois, c'est compliqué. Donc... D'ailleurs, Marine Le Pen, je crois qu'on en a déjà parlé ici, avait fait une erreur presque sociologique, parce que pendant le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, elle avait eu des attitudes très désinvoltes, pas très présidentielles, prenant exemple sur Donald Trump, qui désinguait jusqu'à tous les codes de la bienséance politique habituelle. Ce qui est marché auprès de l'électorat, entre guillemets, petit blanc américain qui déteste Washington, qui déteste l'État central, mais l'électorat de Marine Le Pen ou d'extrême droite français déteste l'élite, mais ne déteste pas l'État, au contraire, et ni la bienséance. Donc c'était une petite erreur, à mon avis, qui a expliqué d'une certaine façon le fiasco du débat, une petite erreur d'anachronisme ou de sociologie politique.
Petite question par rapport à ce que disait Jean Massier il y a un instant sur cette page Wikipédia. Éric Zemmour, Ludovic Vigogne, a annoncé cette semaine 100 000 adhérents. On peut croire ça?
Il a dit qu'il les avait fait, vérifier par huissier. Je ne sais plus si c'était au 100 000e ou un petit peu avant, mais donc ça c'est lui qui le dit. Ce qu'on peut dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on constate malgré tout une vraie dynamique, que par exemple des parlementaires LR vous expliquent que quand ils sont sur les marchés, on ne leur parle que de Zemmour. On constate dans des villes très reculées dans la France qu'il y a des permanences reconquête qui s'ouvrent et dans des villes où il n'y a plus aucune permanence politique. Après, je ne sais pas si ça aboutit à 100 000, mais malgré tout, la dynamique, elle est indéniable.
Oui, pour aller dans le sens de ce que disait Ludovic, moi j'ai un ancien LR qui a maintenant rejoint Emmanuel Macron, qui me disait, nous, avec la grande UMP à l'époque, même sous Nicolas Sarkozy, évidemment maintenant avec Valérie Pécresse, on n'arrivait pas à aller dans une ville comme Lille sans faire venir des quarts de la France entière. Alors que là, il va dans une ville et souvent il n'y a pas forcément des militants qui viennent de toute la France, ce sont des gens sur place qui ont un intérêt. Et ça c'est quand même des signaux faibles, entre guillemets, ou forts, pour se dire qu'il y a quelque chose qui se passe.
Alors, pendant qu'Éric Zemmour parle, on garde les guillemets, mais enfin, a parlé avec Donald Trump, Emmanuel Macron, lui, il parle à Vladimir Poutine et au président ukrainien, Volodymyr Zelensky. L'échange avec Vladimir Poutine a duré 1h45, indique l'Élysée, qui précise que les deux hommes se sont accordés sur la nécessité d'une solution diplomatique. Toujours d'après la présidence de la République, Emmanuel Macron devrait s'entretenir avec Joe Biden et Olaf Scholz dans les prochaines heures. Un engagement diplomatique qui ne convainc pas tout à fait Jean-Luc Mélenchon, il était sur France 3 à la mi-journée.
S'il travaille à la désescalade, c'est une bonne chose. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas crédible. tout simplement pour avoir une fois dit « nous allons défendre l'intégrité physique de l'Ukraine ». Les Russes savent parfaitement que les Français sont hors d'état de faire ce travail. Quelles que soient ses intentions, il s'est placé au fur et à mesure dans une position qui a abaissé sa crédibilité. D'ailleurs, Poutine a dit une fois, d'une manière assez déplaisante, je trouve, que les Français n'étaient pas dans l'équation.
Alors, quelle peut être la portée d'un débat à l'international sur une campagne présidentielle, Thomas Legrand? Est-ce qu'on a déjà vu une présidentielle se jouer sur l'international?
Non, c'est toujours très compliqué à mesurer. Et puis surtout, là, c'est quand même une situation assez nouvelle. On est dans une situation un peu dramatique, avec un suspense, avec tous les jours, on change un peu d'avis, on a l'impression que la guerre est possible, puis non, c'est pas possible. Et puis finalement, là, on est à un moment très dramatique où il va se passer des choses dans les jours qui viennent. Et franchement, comment imaginer que le président de la République, imaginer qu'il soit candidat pleinement et qu'il passe de station de radio à station de télévision, à chaîne de télévision, de meeting. Non, là, il a autre chose à faire.
Donc vous nous dites, c'est normal qu'il ne se soit pas encore déclaré compte tenu de cette actualité internationale.
Je trouve ça normal. Et ce qui n'est pas normal, en revanche, et ce qui démontre une grande faiblesse de La République En Marche, c'est que personne, parce que pendant qu'il fait son travail de président de la République, et c'est nécessaire, personne dans la Macronie n'est capable, il n'a pas fait pendant 5 ans, il n'a pas créé une puissance politique digne de ce nom, il n'y a pas de grands barons de la Macronie qui peuvent faire campagne pendant ce temps-là, et on ne sait pas sur quoi la campagne va se faire, donc c'est normal qu'il ne fasse pas campagne, parce que ça serait inconvenant qu'il fasse, et en même temps, c'est assez fâcheux que on ne puisse pas savoir sur quoi débattre avec le président ou avec la majorité, et que la majorité ne puisse pas produire des personnages et des idées assez puissantes pour le représenter.
Alors Ludovic Vigone, vous qui suivez la droite de la Macronie,
attention les yeux.
C'est pointu.
Non, d'abord,
vous partagez le point de vue de Thomas Legrand sur le fait de normal qu'il ne se soit pas encore déclaré compte tenu de la situation internationale.
Oui, même si c'était déclaré, il ferait autre chose.
Il ne faut pas l'oublier, la France préside l'Union européenne, donc Emmanuel Macron aussi. Est engagé à ce titre-là. Deuxièmement, au-delà de toutes les questions internationales, il a aussi, sur le plan intérieur, une obligation de résultat. On le rappelle souvent, 2008, Nicolas Sarkozy est président, la France est à la tête de l'Union européenne, il y a la crise en Géorgie avec la Russie, et Nicolas Sarkozy obtient des résultats, un cessez-le-feu. Si Emmanuel Macron échoue, les Républicains ne manqueront pas de rappeler ce précédent, et ils le font déjà. Concernant l'absence de campagne du côté de la Macronie, c'est une volonté d'Emmanuel Macron. C'est lui qui veut faire une campagne en solitaire, qui veut tout diriger, tout mener. Il a concentré la campagne à l'Élysée, on le sait, à tel point que
c'est ce que je critique.
À tel point que ses plus proches en ont été un peu émus d'être à ce point écarté et qu'il a dû faire ces derniers jours un peu de cocooning. Mais c'est exactement ce qu'il veut. Après, tout est sans doute prêt. Il suffira d'appuyer sur un bouton. Mais il est sûr que le contexte, pour l'instant, l'empêche. Il a toujours dit qu'il serait président jusqu'au dernier quart d'heure. S'il était candidat, alors que la situation internationale reste extrêmement tendue, ce serait compliqué pour lui de l'expliquer.
Alors, on est toujours évidemment dans l'expectative. Astrid de Villene, dans ces moments-là, évidemment, il y a toutes les rumeurs possibles dans les rédactions. A priori, c'est pour quand? Dans une semaine? Dans 10 jours?
Moi, je ne peux pas répondre puisque je crois qu'Emmanuel Macron lui-même ne le sait pas. Mais ce que je remarque, en tout cas, et c'est assez rare du côté de la Macronie et du côté d'Emmanuel Macron, c'est que pour une fois, il n'est plus le maître des horloges. C'est-à-dire qu'au départ, on nous avait dit. Vous verrez, il ne se passera rien avant le 29 janvier, tant qu'il n'a pas fait ce fameux discours à Strasbourg pour prendre la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Très bien. Ensuite, on nous a dit, ça va être autour de la Saint-Valentin, 14 février. Toujours rien. Après, on nous a dit, vous inquiétez pas, ça va arriver fin février.
Après le pic du Covid.
Et ensuite, on a entendu, ça bruissait que ce serait peut-être au Salon de l'Agriculture. Puis qu'en fait, peut-être pas.
Bon,
en fait,
ouais, le Salon de l'Agriculture, il ne fait que commencer la semaine prochaine.
Samedi,
ça va jusqu'au 4.
Ouais. Après, moi, ce que je trouve, c'est qu'on en fait aussi beaucoup, alors pas forcément nous médias, mais aussi les oppositions, autour de cette déclaration de candidature, puisque c'est un secret de polichinelle.
Il est candidat.
Et voilà, et à la rigueur, qu'il soit candidat, enfin, je veux dire, j'ai lu un article très intéressant sur Public Sénat qui disait qu'en fait, il n'a même pas besoin de se déclarer, il a ses parrainages. Si le Conseil constitutionnel vérifie et se rend compte qu'il est consentant à être candidat, il n'y a pas besoin, je ne savais même pas que ce mot existait pour la politique.
Voilà, c'est un article de l'opinion à l'origine.
Pardonnez-moi.
Je vous en prie.
Il faut quand même
qu'il fasse un écrit auprès du Conseil constitutionnel en disant qu'il est candidat.
Et c'est après, il y a une date. Oui, c'est ça, c'est le 4. Pardon ? Il y a une date limite quand même.
Oui, oui, bien sûr.
Il faut être consentant.
Mais ce que voilà. je veux dire, c'est que je trouve que les autres...
Le 7 mars, la date limite, c'est le 7 mars, la publication des candidatures par le Conseil constitutionnel.
Enfin, en tout cas, je trouve que ses adversaires en font beaucoup. Au lieu de mener campagne, d'imposer leur thème, d'être dans le finalement dans le jeu, dans le match, ils passent leur temps. Et là, je parle surtout de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo, qui elles passent leur temps à dire mais que fait le président, ce n'est pas démocratique.
Oui. Et elle crée une attente malgré elle. Non, c'est ça.
Oui, alors qu'elles ont tout l'espace.
Elle participe à créer l'attente et tout le monde attend et c'est un peu absurde. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, il est très content de dire dis donc ça parle de ma candidature sans que j'ai besoin d'en parler.
Ça souligne le fait qu'il n'y arrive pas parce que quand François Hollande avait fait son grand discours avec le fameux « Mon ennemi, c'est la finance », c'était avant que Nicolas Sarkozy se présente. Donc la campagne était lancée. Et puis, on se souvient aussi que François Hollande ne s'est pas présenté. Il y avait quand même eu une campagne. Donc là, s'il n'y a pas de campagne, c'est aussi un peu à cause des oppositions.
Alors après, il aura quand même une petite difficulté matérielle. Hein, c'est que son temps de campagne sera extrêmement bref. Parce que le 28 mars, on passe à une égalité stricte de temps de parole entre tous les candidats. Et donc ça change quand même pour lui les règles du jeu. Certes, quand il va se déclarer, il y aura un effet ballast.
Ça l'arrange peut-être.
On va parler que de lui, il va sans doute enchaîner l'émission, mais malgré tout, ça va être très très court pour lui de faire valoir ses idées et d'expliquer pourquoi il veut un second mandat.
Juste une question, Ludovic Vigogne, l'équipe de campagne, elle est prête?
Oui,
les principales têtes, c'est qui?
On sait à peu près que le directeur de campagne sera Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Aujourd'hui, celui qui tient la corde pour être porte-parole, c'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Des conseillers de l'Élysée très proches, très utiles à Emmanuel Macron, comme Clément Léonard Duzy, qui s'occupe de sa commission, ou sa plume, Jonathan Sguemas, vont partir dans l'équipe de campagne. Et à l'Élysée restera un élément clé qui est Alexis Kohler, qui restera à l'Élysée, qui malgré tout supervise tout.
Et les femmes, parce que j'ai bien écouté la liste, Astrid de Villene.
Il y a aucune femme question. Dans son entourage proche, mais c'est pas nouveau, et encore moins dans cette structure très très étroite en fait finalement. Il s'appuie sur quelques conseillers. Les ministres ne sont pas du tout mis en avant, à part les deux ou trois cités par Ludovic. Mais par exemple, j'ai cru comprendre que par exemple Olivier Véran, il n'avait absolument pas envie de le mettre en avant parce que, je cite, il a le visage du Covid et on veut passer à autre chose. Mais je me demande si c'est pas une erreur aussi de pas s'appuyer sur cette armée de ministres, même s'ils sont pas tous forcément des généraux, comme même à le dire les proches d'Emmanuel Macron. Je pense qu'ils se privent aussi de force, en effet, pour faire campagne, pour porter la parole finalement d'Emmanuel Macron en attendant, et que de faire un tout petit noyau dur comme ça, c'est pas toujours, on n'a pas forcément tous les échos du pays, on peut aussi se recroqueviller sur soi.
Je suis pas tant persuadé que ça, ce soit une nécessité absolue pour Emmanuel Macron d'avoir un état-major avec des lieutenants qui vont sur le plateau de télé. On vit une personnification telle de l'élection présidentielle qu'après tout, c'est lui qui compte, par qui il est entouré. Moi, je suis le premier à déplorer qu'il n'y ait que des mecs, par exemple, dans son entourage. N'empêche que, au final, ce qui compte pour les Français et les électeurs, c'est les visages des candidats. Voilà, c'est Éric Zemmour. Alors, par qui il est soutenu, l'ancien député, machin? En vrai, ça nous intéresse, nous. Mais bon, l'électeur moyen, il vote Zemmour, il vote pas Nicolas Bay ou alors Collard.
Je suis d'accord, mais ça permet quand même d'inonder les ondes, les réseaux sociaux, etc. Alors que là, il n'est nulle part, finalement.
Non, mais il y a un point qu'il faut avoir en tête, c'est que Emmanuel Macron, il veut dépendre de personne pour cette élection. Donc, il veut pas qu'il y ait un lieutenant qu'on voit plus qu'un autre. Il veut pas dépendre d'Edouard Philippe. C'est pour ça qu'il ne l'associe quasiment pas à cette campagne. Il veut pas plus dépendre de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que l'année dernière, quand Sarkozy lui a proposé de faire un deal, en échange de sa réélection, il n'a pas voulu. Emmanuel Macron, c'est comme ça qu'il s'est fait élire en 2017, en dépendant de personne, et il entend bien recommencer cette année.
Et réitérer l'exploit. Il est 18h33.
Un dimanche de campagne sur France Inter.
L'heure à présent de revenir sur les derniers jours de cette campagne. Bonsoir Cyril Lacarrière.
Bonsoir Claire.
Place à votre semaine politique.
Le vent souffle sur la campagne présidentielle française. Cette semaine, il y avait comme un air de gueule de bois post-zénith pour la droite.
Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
C'est peu dire que le meeting de Valérie Pécresse a agité la droite cette semaine, critiqué sur la forme, critiqué sur le fond. La candidate LR s'est transformée en cible vivante. Difficile, dans ces conditions, de trouver la bonne défense.
Si l'objectif, c'est vraiment d'avoir un orateur, eh bien, il y en a des meilleurs que moi. Si l'objectif, c'est d'avoir une faiseuse qui va faire quelque chose, alors je pense que je suis la meilleure candidate.
Sur la forme, il n'était pas nombreux dans son propre camp à prendre la défense de Valérie Pécresse. C'est donc Marlène Schiappa qui s'y est collée.
J'ai trouvé que les commentaires étaient très durs. Et je trouve que sur la forme, on en attend toujours beaucoup plus des femmes en politique que des hommes. Et j'ai trouvé que, en général, quand il s'agit de femmes politiques, que ce soit Valérie Pécresse, mais Anne Hidalgo ou d'autres, on concentre les commentaires et les analyses sur des questions de forme, de voix, d'attitude, etc. et beaucoup moins sur le fond.
Lundi, c'était la Saint-Valentin. Alors, Édouard Balladur est venu mettre un peu de baume au cœur de Valérie Pécresse.
Je suis persuadé qu'elle a trouvé en elle la force pour convaincre les Français que son projet pour notre pays était le meilleur. Et dans ces conditions, je tenais à venir lui manifester mon soutien.
À défaut de soutirer un encouragement de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse a donc le soutien de l'ancien Premier ministre de François Mitterrand. Mais on sent que dans son camp, c'est pas franchement l'enthousiasme délirant. D'ailleurs, un autre ancien Premier ministre de droite semble lui plutôt pencher du côté d'Emmanuel Macron.
On a une chance extraordinaire, c'est que le plus jeune et le plus expérimenté. Avoir la jeunesse et l'expérience ensemble, c'est très très rare. J'espère qu'il va mettre cette expérience au service d'un projet, d'un élan ambitieux. Est-ce que Emmanuel Macron va mettre son expérience au service d'un grand élan? Si c'est ça, je trouve que c'est une voie intéressante.
Les mots de Jean-Pierre Raffarin à garder en tête si vous pensez que candidat à l'élection présidentielle est une bonne situation.
Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Ce vent de la fraternité n'a pas touché que la droite. Cette semaine, à gauche, on n'est pas non plus dans la distribution de gros câlins.
J'en ai marre, moi, d'une gauche et des écologistes qui donnent des leçons de morale, qui vous culpabilisent quand vous prenez la voiture, quand vous prenez l'avion, quand vous mangez de la viande, ou qui vous disent que vous êtes raciste quand vous prenez un drapeau bleu-blanc-rouge.
Fabien Roussel en a ras la casquette de la gauche. Le candidat communiste fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il gagnote quelques petits points dans les sondages. Cette semaine, il a aussi passé le cap des 500 parrainages. C'est donc bien sur la ligne de départ. Il sera donc bien sur la ligne de départ de cette présidentielle. Ce qui n'est pas encore le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a pourtant reçu un soutien tout à fait inattendu.
Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon, puisque c'est lui qui fait la meilleure campagne, qui est structuré, qui est cultivé, qui a l'expérience d'une campagne présidentielle, qui sait prendre des coups. C'est lui le plus solide.
Les amateurs de vaudeville en ont pour leur argent. Oui, Ségolène Royal, ancienne candidate du Parti Socialiste, finaliste de la présidentielle de 2007, lâche son camp et donc Anne Hidalgo.
Elle n'est pas à ma place et donc c'est ainsi. Et c'est peut-être ce qu'elle regrette.
Quand Anne Hidalgo est déçue, Jean-Luc Mélenchon, lui, boit du petit lait.
Oui, ça me fait plaisir. Mais à un moment donné, il y a des réalités qui s'imposent à nous.
Oui, vous l'avez compris, le vent de cette campagne avait tout cette semaine du vent mauvais.
Alors, vous n'avez pas encore une petite trahison pour finir cette semaine pleine de fraternité?
Ça ne vous suffit pas, Claire. Eh bien, non. Puisque vous insistez, après un suspense hitchcockien, Nicolas Bay a donc rejoint Éric Zemmour, un départ qu'il a accompagné d'un petit mot doux concernant le Rassemblement National.
Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension.
Ça relève plus du fonctionnement d'une secte que du fonctionnement d'un parti politique mature.
L'occasion pour moi de vous citer quelques paroles de Sniper. J'aurais voulu que l'on cède, pour ceci j'ai plaidé, qu'on s'entraide et s'élève, lever la tête et jamais céder, on a partagé nos secrets, tant de regrets, faux refrains. Toi tu jouais le mec vrai, mais tu bluffais, te trait.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. Eh ben oui, c'est ça, hein, beaucoup de trahison dans le monde politique. Peut-être un petit mot pour commencer de Ségolène Royal, Astrid de Villene.
Très inattendu. Franchement, moi je suis un peu tombée de mon canapé en regardant ça. Alors pourquoi? Certains au Parti Socialiste qui restent disent que c'est quelque chose de, en fait, finalement d'affectif, qu'elle est très déçue de voir l'état de son parti politique et que voilà, elle prend position pour Jean-Luc Mélenchon à contre toute attente, alors que des rumeurs de presse disaient qu'elle était prête à soutenir Valérie Pécresse la semaine d'avant. Ça, c'est ce qui se dit au PS. Côté Mélenchon, évidemment, là, pour le coup, on boit du petit, là, évidemment, parce que lui, qui a toujours été, pendant 5 ans, il a parfois dit qu'il n'était plus de gauche, il a toujours voulu remplacer le Parti Socialiste, et aujourd'hui, maintenant qu'il est dans une position de leadership, bon, on est quand même entre 10 à 10 ou 11%, donc c'est pas non plus très élevé, mais quand même, il est devant, on va dire, à gauche, donc il a besoin, finalement, de ce vote utile que lui appelle vote efficace, parce qu'il veut surtout pas utiliser l'expression. Donc pour lui, c'est
Il est un peu gêné aux entournures, non? Allez, Jean-Massy, vous avez suivi sa conférence de presse cet après-midi?
Oui, j'ai suivi sa conférence de presse.
presse. C'était pas une conférence de presse. Il parlait devant le Parlement de l'Union populaire,
voilà. le nom de son comité
de soutien, on va dire, qu'il réunissait, dans lequel c'est très bien d'avoir un comité de soutien.
Oui,
dans lequel voilà, il a effectivement dit voilà, on va rentrer dans une phase de la campagne, chers amis, camarades, comme il dit peu d'ailleurs. On va rentrer dans un moment où il va falloir commencer à accueillir tout le monde. Maintenant, c'est bon. Il va falloir qu'on ouvre nos bras. Et il a eu un mot indirect pour Ségolène. Il a pas prononcé son nom en disant bon, bah parfois on en accueille que ça fait bizarre, mais bon, on les accueille quand même. Voilà, Jean-Luc Mélenchon est dans ce moment de la campagne où il a parfaitement conscience effectivement que son avance va devoir être consolidée, que ça va pas du tout pour les autres candidats de la gauche, à part Fabien Roussel qui commence à respirer, les autres. Voilà, il se dit les défections, maintenant faut les accueillir. Et c'est le bon moment, donc on y va, on les accueille à bras ouverts, on se calme, on arrête d'insulter les socialistes. Enfin, c'est un peu la consigne qu'il a donnée cet après-midi. Est-ce que ce sera entendu par ses soutiens? Je ne sais pas.
Et vous, Thomas Levrault?
C'est très 5e République, hein. C'est on accueille les autres, mais on ne négocie rien, il n'y a pas de coalition, il n'y a pas de compromis. C'est très suivez-moi si vous m'aimez. Je pense que d'ailleurs ça peut plutôt marcher parce que à partir du moment où une partie de la gauche qui ne serait pas mélenchonienne par réflexe considère que c'est mort pour la gauche social-démocrate ou écologiste, la gauche modérée disons, la gauche du gouvernement comme on disait autrefois. Eh bien, et à partir du moment où aussi il paraît peu évident, pour l'instant en tout cas, que Jean-Luc Mélenchon puisse gagner, donc on peut faire fi de toutes ces positions sur Poutine ou sur la politique étrangère qui ne plaisent pas du tout à la gauche modérée. Il peut y avoir une sorte de vote un peu identitaire de gauche qui peut renforcer Jean-luc Mélenchon.
Il n'y a pas que Poutine et la politique étrangère, Thomas.
Non, il n'y a pas que ça.
L'Europe, il y a aussi.
Oui, il y a l'Europe, bien sûr.
Il y a l'économie, il y a la
politique étrangère.
C'est pas en même temps tous les deux. C'était l'un après l'autre.
C'était ce qui, je pense, que la politique étrangère et l'Europe, c'est ce qui rend très très hermétique la séparation entre la gauche social-démocrate, disons, et la gauche mélenchonienne. Mais à partir du moment où il n'y a plus de risque ou de chance plutôt que Jean-Luc Mélenchon puisse gagner, il y a peut-être certaines voix de gauche qui n'auraient pas pensé voter Mélenchon, qui voteront Mélenchon, mais c'est simplement parce qu'ils savent qu'il ne va pas gagner.
Bon, c'est pas aussi la mort du Parti Socialiste, cette affaire? Parce que dans le même temps, on a Marisol Touraine et Élisabeth Guigou qui annoncent soutenir Emmanuel Macron.
Nationalement, sans
doute. Il reste quoi au PS, très sincèrement?
C'est une bonne question. Il restait déjà pas grand-chose, il va encore rester moins. C'est la fin du mouvement enclenché en 2017. Voilà, on assiste à l'étape ultime de la recomposition qu'a provoqué l'élection d'Emmanuel Macron.
Pour l'instant,
de la décomposition, mais on avance petit à petit vers sans doute une recomposition. Il y a là ce qui se passe au PS. Si Valérie Pécresse n'est pas au second tour d'ici quelques semaines, ce sera l'explosion des Républicains et on ira un peu plus vers la décomposition puis la recomposition.
Donc on aura la recomposition totale du paysage. Un mot de Christiane Taubira. Alors elle a perdu l'appui du PRG. Anecdotique, et là aussi il ne restait pas grand monde.
Christiane Taubira, ça va s'arrêter bientôt, oui. Je pense, parce que le seul intérêt, entre guillemets, de la candidature de Christiane Taubira, c'était de réunir. Non seulement elle ne réunit pas, mais elle n'est même plus en tête, elle est même en queue de peloton, donc il n'y a aucune...
Et puis surtout, elle n'a pas encore ses parrainages, elle est très loin...
Elle a même perdu l'appui, semble-t-il, de ceux qui ont organisé la primaire
populaire. Alors, on va l'écouter, Christiane Taubira.
Mon directeur de campagne s'est exprimé il y a quelques jours pour dire le décompte qu'avait fait l'équipe de campagne. Nous avions plus de 600 promesses de parrainage. Donc, il y a à trouver l'explication entre le fait d'avoir autant de promesses de parrainage et d'avoir aussi peu de parrainage concrétisé. Ce que je dis aux élus, c'est simplement que nous sommes quand même dans une interrogation démocratique.
Voilà, c'était aujourd'hui sur BFM. Vous y comprenez quelque chose? Moi, j'ai un peu de mal.
Non, pas grand chose. Et c'est dur pour elle et dur pour ses soutiens parce qu'effectivement, sa candidature avait été attendue par une partie de l'électorat de gauche, notamment par des jeunes qui voulaient, voilà, la voix Taubira, ça comptait pour eux. Et cet élan qu'il avait porté au succès de la primaire populaire, en fait, est en train de s'estomper parce que beaucoup de jeunes maintenant, oui, peut-être se rendent compte que c'est une candidature malheureusement de division. Ils en sont très tristes, très attristés. Ils arrivent plus à y croire. Et du coup, ils savent plus très bien quoi soutenir. Cet élan Taubira, en fait, n'en est finalement pas un. Et c'est très dur. Je l'ai reçu sur mon plateau jeudi dernier, Christiane Taubira, sur Twitch. Et je voyais bien que toute sa verve, toutes ses tripes qu'elle met sur la table, et c'est vrai que c'est beau son engagement, ça dit quelque chose et ça parle à beaucoup de jeunes, arrive dans un moment de la campagne où en fait, ça ne fait plus écho. Ça ne fait plus écho pour beaucoup d'électeurs.
Et les tractations avec l'équipe de Jadot, c'est une réalité ou pas?
Oui, c'est une réunion qui a eu lieu, qui encore continue, en fait, à donner cette image d'une gauche qui ne parle qu'à elle-même, en fait, hein, qui fait des tractations au dernier dernier moment. Même Christiane Taubira, avec tout en effet l'engagement et tout ce qu'elle peut représenter pour une grande partie de la gauche, elle arrive beaucoup trop tard. En septembre, d'ailleurs, sur cette antenne, elle avait dit non, ne venez plus me chercher, je n'ai aucune envie d'être candidate. On peut pas en fait s'improviser candidat à la présidentielle comme ça en quelques semaines. Donc et en fait pendant 6 mois, c'est pour ça que ça me fait un peu, ça m'a étonné ces 600 parrainages, parce que ceux qui sont depuis un an à parcourir les routes avec tous leurs militants, parfois la force de mouvements derrière eux, de partis, ils n'y arrivent toujours pas, certains, à avoir les 500 parrainages, donc ça paraît un
petit peu... Il y avait le PRG, le Parti Radical de Gauche,
qui a annoncé qu'il ne la soutenait plus. C'est sûr que ça ne l'aide pas à obtenir ses parrainages. Alors, pour l'instant, elle n'était pas à 100. Hein.
On va parler des parrainages. Je voudrais qu'on dise un dernier mot de la gauche, de ce qu'il en reste, avec Yannick Jadot. Jean Massier, vous qui suivez beaucoup ce que font les jeunes... Les jeunes ont été très mobilisés sur la question du climat.
Ouais.
Aujourd'hui, on a l'impression qu'une partie se dirige plus vers Jean-Luc Mélenchon que vers Yannick Jadot.
Camille Etienne, par exemple, qui est une militante historique du mouvement climat dans lequel se sont inscrits beaucoup de jeunes, a rejoint Jean-Luc Mélenchon, ce qui a été compris par beaucoup de jeunes, notamment d'internautes, en disant Yannick Jadot, c'est très bien la tradition écolo dans ce pays, on l'aime bien, on l'a même soutenu au niveau local, pour beaucoup ont voté pour les écolos régionales ou municipales, mais là, la donne n'est pas la même, Yannick Jadot ne parvient pas imprimer ce que beaucoup de jeunes ont souhaité. La candidature de Sandrine Rousseau pendant la primaire avait beaucoup plus emballé beaucoup de jeunes du mouvement climat. Et Yannick Jadot a du mal à reboucler les deux bouts. Il est partagé entre une posture de sérieux où il se remet à mettre des cravates même, et ça plaît pas à beaucoup de jeunes. Et en même temps, une tentative de radicalité mais qui jure un petit peu. Et encore une fois, oui, beaucoup de, notamment de jeunes militants écolos trouvent que, bah mine de rien, la bifurcation écologique de Jean-Luc Mélenchon, elle est vachement bien expliquée dans son programme, elle est claire. Bah, ça donne un peu plus envie que Jadot.
Le syndrome de la cravate, Thomas Legrand.
Oui,
non, mais sur l'écologie, c'est...
Non, mais sur l'écologie...
Pourquoi est-ce que c'est un autre candidat qui attire plus les personnes sensibles à l'écologie que le candidat des Verts ?
Parce que il est tiraillé, il est un petit peu comme finalement comme Valérie Pécresse, il est tiraillé entre le fait que pour une partie en tout cas dans aux élections régionales, une partie de l'électorat modéré, de gauche modérée, urbaine, le vote raisonnable aujourd'hui, c'est le vote écologiste. Et d'ailleurs, il suffit de voir les villes conquises par les écologistes, hein, c'est les villes plutôt bourgeoises, Annecy par exemple, Bordeaux bien sûr. Mais au niveau national, dans une compétition très dure comme celle-là, c'est la radicalité qui semble payer. Moi, je pense qu'il aurait dû choisir, plus clairement, non pas la radicalité, mais d'essayer d'aller chercher les électeurs de centre-gauche qui étaient partis chez Emmanuel Macron, parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'on dit souvent, la gauche, c'est plus rien, mais en fait, une grosse partie des électeurs de gauche, ils sont pas décédés, hein. Ils sont partis, ils votent pour Emmanuel Macron. Et ils se disent toujours de gauche, d'ailleurs. Et ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont centristes. Donc,
avouez que c'est quand même dur de s'y retrouver. Hein.
Oui, c'est dur de s'y retrouver, mais cette espèce de, comme disait Jean Massier, il n'arrive pas à gérer cette tension entre la nécessaire modération qu'il faut pour rassurer dans une élection présidentielle où il s'agit de devenir président, mais à partir du moment où on a compris que la gauche ne gagnerait pas, eh bien, c'est quasiment le vote identitaire de gauche qui gagne, et c'est une prime à la radicalité, et ça va pour Jean-Luc Mélenchon.
Astrid de Villene.
Oui, puis, ils n'ont pas réussi, en fait, alors qu'ils avaient quand même, entre Sandrine Rousseau et lui, en effet, c'est un peu le grand écart idéologique, mais malgré tout, ça aurait pu justement rassembler. Ils n'ont pas réussi à faire la photo de famille, à faire tous les marchés.
Ou alors, il fallait casser carrément avec Sandrine Rousseau, plus clairement.
Voilà, l'un ou l'autre. Mais en fait, là, on est dans une ambiguïté, ils se tirent dans les pattes à ciel ouvert, donc en plus, il y a des divisions en interne. Et puis surtout, quand on est le candidat de l'écologie, il faut marteler matin, midi et soir, je veux du bio, de l'air pur et l'écologie pour tous. Là, il s'est un peu perdu. Il s'est perdu avec la chasse, il s'est perdu avec la prostitution, il s'est perdu
la
avec...
La chasse, c'est quand même un petit peu...
Oui, mais en fait, les gens n'ont pas beaucoup de temps d'écoute. Enfin, ça, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit souvent, et même d'autres lieutenants politiques d'importance. Ils vous disent, une présidentielle, c'est un visage et un message.
Ouais, là, moi, j'ai du mal... De plus en plus, hein. La nuance est de plus en plus compliquée.
Moi, je vois mal le message. Enfin, je vois, on connaît, évidemment, il a fait 13% aux européennes, on sait qu'il est le candidat de l'écologie, mais on ne l'entend pas. Je sais pas comment vous dire, ça ne traverse pas le mur du son.
Alors on va dire un petit mot des parrainages. C'est toujours la même chose. On a entendu aujourd'hui sur notre antenne Marine Le Pen qui a parlé d'une situation terrifiante démocratiquement. Elle a indiqué qu'il lui manquait une cinquantaine de parrainages. Ce matin, Éric Zemmour estimait très possible de ne pas réussir à les avoir, ces parrainages. On ne sait jamais très bien quelle est la part d'intox et de réalité dans tout ça, Ludovic Vigogne. Vous pensez vraiment que certains risquent de ne pas franchir la barre là ?
En tout cas, certains ont pour l'instant un nombre de parrainages au compteur qui peut les inquiéter à juste titre. Hein. La deadline, c'est le 4 mars. Aujourd'hui, à la date de jeudi, Mélenchon en avait 370, Marine Le Pen 366 et Éric Zemmour 291. Il ne reste plus beaucoup de temps pour transformer les fameuses promesses de parrainage qui ont été récoltées ces derniers mois en parrainage véritable. Les règles ont changé, on l'a suffisamment dit. Désormais, les noms des parrains sont publiés par le Conseil constitutionnel. On sait très bien que cela peut valoir à certains d'entre eux de la vindicte sur les réseaux sociaux. Certains d'entre eux ont découvert cette règle en 2017. Hein, c'était un changement qui avait été fait par 2014. Ils en ont subi quelques conséquences en 2017 et ils n'ont pas envie d'être à nouveau la cible de critiques dans leur petite commune. Moi, je discutais récemment avec une sénatrice LR de l'Indre. Elle me disait qu'elle-même avait du mal à convaincre des maires de communes de 70 habitants de son département de signer pour Valérie Pécresse.
Donc, alors qu'ils étaient au parti.
Donc c'est pour vous dire comme c'est devenu très compliqué. Voilà.
Juste en un mot, et après on va passer au bobineau de Thomas Legrand, mais l'initiative de François Bayrou, elle peut servir à quelque chose? Ça peut aboutir ou pas, ça?
Elle peut servir. François Bayrou, jeudi, dans le Figaro, donnait une information intéressante, c'est que dans sa banque de parrainage, pour l'instant, il y avait 100 maires. Avec ça, vous n'allez pas non plus sauver et Mélenchon, et Le Pen, et Zemmour, si tous les trois ont un besoin massif de parrainage.
Ça dit quelque chose surtout de la fatigue démocratique généralisée dans ce pays, parce que si même les maires arrivent à ne pas parrainer de candidats, je trouve que c'est aussi important à regarder que l'abstention, que les violences envers les élus, que la dégradation généralisée du débat public. Et moi, je suis un peu mal à l'aise avec ces idées de changer les règles en cours de route. C'est-à-dire qu'il y a il fallait s'en rendre compte avant. Il y a une règle, c'est qu'il faut avoir 500 parrainages. Pour moi, ceux qui ne les ont pas, tant pis pour eux, oui. Ils viendront la prochaine fois.
Et oui, désolé, c'est l'heure des bobineaux de Thomas Legrand. Thomas, vous êtes...
Faut pas être désolé que ce soit l'heure de...
Non, je sais pas s'ils avaient encore quelque chose à dire, mais on va les dire après. Vous êtes, Thomas, ce soir, nostalgique de la droite, ou je me trompe?
Nostalgique de la droite quand elle était positive, optimiste. Est-ce que la droite, c'était mieux avant? C'est une question, puisque visiblement, en ce moment, tous les candidats de ce camp semblent sombrer dans la nostalgie et nous proposer de revenir à des valeurs et des solutions d'avant. Eh bien, il fut un temps où la droite était tournée vers l'avenir. Le progrès, l'ouverture. Écoutez Valéry Giscard d'Estaing, candidat en 1974.
Il faut assurer la sécurité de l'emploi. Il faut organiser une répartition plus juste des revenus. Il faut améliorer les conditions du travail. Il faut accroître la liberté et la responsabilité des travailleurs. Et il faut enfin reconnaître le rôle des travailleurs, des employés et des cadres dans l'entreprise.
Et encore ?
Si je suis élu, le gouvernement proposera à l'Assemblée nationale le droit de vote à 19 ans. Et les Français auront un gouvernement composé d'hommes et de femmes jeunes et en majorité nouveaux pour préparer la France des années 1980. J'entends proposer à la France un nouveau style politique qui convienne mieux à notre époque, un style ouvert, direct, moderne. Cette voie-là, nous pouvons nous y engager, et c'est la voie de la fraternité sociale.
De la fraternité sociale, Valéry Giscard d'Estaing, qui a effectivement dépoussiéré au début de son mandat. Et vous remarquerez une promesse tenue au-delà de ce qui était annoncé. Valéry Giscard d'Estaing a abaissé la majorité, non pas à 19 ans, mais à 18 ans. C'était à 21 ans avant. La droite, c'était mieux avant. Écoutez, Nicole, électrice de droite d'un certain âge, 82 ans, je crois, rencontrée cette semaine en Vendée par Anne Souhaitement.
Ça vaut pas les anciens. Moi, je m'en rappelle tant. Le président Coty. En 54, il était bien lui, c'était quelqu'un de super.
Alors le président Coty pour Nicole, 82 ans, cadeau, et pour nos auditeurs qui ont un peu oublié peut-être la voix du président Coty, dernier président de la 4e République, lui aussi de centre droit est très attaché à la Concorde.
Je remercie bien sûr ceux qui ont bien voulu me donner leur suffrage, mais je tiens à remercier aussi ceux qui avaient bien légitimement d'autres préférences. Voyez-vous, un homme politique dans sa carrière, il lui arrive de souhaiter d'obtenir des bulletins de vote, mais je crois qu'il doit par-dessus tout souhaiter d'avoir l'estime et sa sympathie de tous, et de ses partisans et de ses adversaires.
C'est M. René Coty. Un grand homme. Il marquera l'histoire.
Vous avez reconnu Jean Dujardin dans SS117. Alors, 117, alors est-ce que la droite, c'était mieux avant, quand elle ne pensait pas forcément que c'était mieux avant?
On va demander,
je pose la question.
On va demander à Ludovic Vigogne, qui suit la droite.
Ah, c'est sûr que le contexte a beaucoup changé et qu'aujourd'hui, Valérie Pécresse a à faire face avec à des candidatures, à une candidature en l'occurrence, celle d'Éric Zemmour, qui rabâche matin, midi et soir que c'était mieux avant. Et que l'un de ses objectifs, c'est de...
Nouvelle France, le slogan
de Valérie. C'est l'un de ses objectifs, c'est d'empêcher des électeurs LR qui pourraient être séduits par lui d'aller le rejoindre. Elle a aussi un autre objectif, hein, c'est de faire revenir des électeurs de droite qui ont été séduits par Emmanuel Macron. Pour ça, elle est obligée quand même de jouer sur des ressorts d'un autre ordre. Vous parliez de la modernité, du progrès. Elle a quand même, dimanche, montré qu'elle était attachée à la liberté, essayé d'esquisser des chantiers d'avenir.
La France des cathédrales et des satellites,
oui,
a-t-elle dit.
Tout à fait. Et notamment, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle se donnait pour ambition de réfléchir à la France post-Covid. Tout ce que ça allait changer, le rapport entre les territoires, le rapport au travail, etc. etc.
Mais c'est quand même pas le meeting le plus réussi du moment.
Je ne tiendrai pas cette
Elle l'a reconnu elle-même, d'ailleurs.
Elle l'a reconnu elle-même. Toute son équipe a été un peu saisie, un peu dépitée dimanche soir de l'accident industriel qui avait eu lieu. C'est sûr que la forme a beaucoup joué, que le fond a fait aussi polémique. Après, on notera qu'elle s'est rétablie vendredi soir au Canet en tenant un meeting tel qu'il ressemblait à celui durant la campagne du Congrès à l'automne, et que ça va lui permettre de respirer un peu.
Alors, il nous reste 2 minutes, on va faire un tour de table, et vous allez chacun nous dire ce que vous attendez de la semaine prochaine, ce qui vous paraît important dans l'agenda, dans l'actualité, ce qui est prévu. Thomas Legrand.
Oh, bah, Valérie Pécresse qui vient à la spéciale, matinale spéciale, mardi.
Mardi matin, sur France Inter. Bah, vous en êtes bien sortis comme ça. Bravo. Astrid de Villene, pour vous, qu'est-ce qu'il faut surveiller?
Si on parle juste de la semaine, je dirais évidemment la situation en Ukraine, parce que ça peut dégénérer à tout moment. Mais je crois que le point d'orgue, c'est samedi, le salon de l'agriculture, où Emmanuel Macron va quand même inaugurer, normalement.
À propos d'international, il y a un débat aussi sur l'engagement au Mali. J'en reviens à ma question. Est-ce que ça peut effectivement être quelque chose d'important, Ludovic Vigogne?
Ah bah, c'est sûr que ça
ce genre de débat, au-delà de l'Ukraine.
Le débat, non. En tant que tel, non. Parce qu'on sait très bien que les débats à l'Assemblée nationale n'ont pas beaucoup d'importance sur l'issue. Mais ça donne quand même, malgré tout, un contexte qui est un peu plus grave, qui est un peu plus détaché des questions intérieures.
Au niveau des questions intérieures, et je vous donne la parole Jean Massier dans un instant, il y a quand même aussi la question sociale. Les résultats économiques, le coût de l'énergie, l'inflation, les salaires, tout ça va peut-être quand même s'inviter dans la campagne, Astrid de Villene.
Bien sûr, et l'exécutif surveille ça de très très près. Le coût de l'énergie, le prix du pétrole qui s'envole, le plein qui est très très cher à la pompe, des gens qui refusent des jobs en ce moment parce qu'ils ne peuvent plus aller en voiture sur leur lieu de travail, c'est évident que ça va s'inviter dans la campagne.
Et puis la question des salaires, on a vu cette grève à la RATP massive, un vendredi, veille de congé. Effectivement, c'est quelque chose de pas banal, Jean Massier.
Un convoi de la liberté peut être déclenché en très peu de temps. C'est aussi ce que ça nous a rappelé, la petite fièvre là, de la semaine dernière autour du convoi de la liberté. Ça nous a rappelé quand même que ça peut aller très vite. Une grande mobilisation de type gilet jaune samedi prochain peut être déclenchée comme une traînée de poudre dès mardi, par exemple.
Ludovic Vigogne, vous êtes
moins sûr. Parce qu'on a vu que le convoi de la liberté, ça n'avait pas marché. Et puis malgré tout, on est quand même très proche de l'élection. Et l'habitude, c'est plutôt qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux. La tradition, c'est plutôt qu'il n'y en ait pas qui émerge.
Mais on est dans un contexte compliqué avec la crise sanitaire qui n'est pas tout à fait terminée.
Oui, et même sur la seule question du pouvoir d'achat, il y avait un sondage aujourd'hui dans le JDD qui montre que près de 80% des Français ne sont pas contents du mandat d'Emmanuel Macron sur cette seule question.
Et ben voilà, ça, on y reviendra une prochaine fois. Il est déjà 18h58 et 30 secondes. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir.
Cette élection, mes amis,
nous redonnerons vie à la démocratie.
Pourquoi pas nous ?
Tous les Français !
Merci à vous tous d'être si nombreux.
Voilà ce que je vous propose. Alors,
et vous tous,
vive la République, vive la liberté,
vive l'écologie,
et surtout,
vive la France !